Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle aide dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
C'est toujours Radio Libertaire et c'est la fin de cette émission d'Idéaux et Débats. Nous avons parlé de l'Hôtel du Rayon Vert de Franck Pavlov chez Albin Michel et de L'Œil de la Perdrix de Christian Astolfi aux éditions Le Bruit du Monde. On se retrouve bien sûr dans deux semaines, mais d'ici là, restez à l'écoute de Radio Libertaire 89,4 MHz et portez-vous bien.
Roi du libertaire, roi du libertaire, roi du libertaire.
Conscrit qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Alors, je fume, je bois et j'écris.
Les mots sont dangereux, ils rendent vraies les choses.
Moi je sais lever le poing, moi je n'oublie jamais rien. Moi je sais rester humain, je sais toujours d'où je viens.
Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants.
Idéaux et débats, libre et combat.
Je porte un toast à tous ceux qui ont lutté pour que nous puissions nous arracher à cette condition forcée. À tous ceux qui pensent que nous sommes des humains et pas qu'une somme de cerveaux disponibles de part de tranches de cible. À tous ceux qui l'ouvrent bien grand.
Je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer le greffe comme on pique une colère. Plus têtu que tous les vieils hommes et la mer. Pour que continue le combat ordinaire.
Je fume, je bois et j'écris.
Va falloir montrer les crocs avant qu'ils nous serrent la laisse autour du garrot.
Radio Libertaire 89.4 et nous sommes au Grand Soir du Mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors, aujourd'hui, nous recevons Aude Vidal, qui va se présenter incessamment sous peu, pour son livre « Dévorer le monde » aux éditions Payot. Et c'est un livre qui est une critique du tourisme et qui réfléchit sur les représentations sociales et le sens du voyage dans la société d'aujourd'hui. Voilà. Alors, Aude, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire grosso modo ce que tu fais dans la vie ?
Oui, alors ce que je fais dans la vie, je travaille pour une asso et puis j'ai publié quelques livres depuis 2017. Et dont notamment un bouquin qui s'appelle Écologie. Écologie, capitalisme et course au bonheur, je crois. Je ne sais plus.
Et tu es anthropologue ?
Alors, je suis anthropologue de formation. Et j'ai fait notamment, et j'en parle dans le livre, un terrain dans un village qui a la particularité d'être un village touristique en Malaisie péninsulaire. Et donc, j'ai pu voir aussi comment l'argent du tourisme ruisselait sur les villageois. Et c'est quelque chose qui fait partie du propos du livre.
D'accord, on va y venir en détail. Hein. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce titre, « Dévorer le monde » ?
Eh bien, je voulais parler du fait de consommer, en fait. Du fait de consommer le monde, manger le monde, dévorer le monde. Et côté un peu ogresque, comme ça, j'aimais bien l'idée, que je dois d'ailleurs à une copine le mot dévorer, parce que je n'avais pas pensé, pour parler de cet acte de consommation, et puis le monde, parce que c'est un peu l'objet du voyage. C'est un livre qui parle beaucoup du voyage international, et pas forcément de l'industrie touristique telle qu'elle est ici en France, parce qu'en fait c'est beaucoup du tourisme local que font la plupart des gens. Même au niveau mondial, c'est du tourisme nord-nord, dans les pays limitrophes, le voyage international qui fait un peu rêver et tout, c'est quand même représente pas une part très très importante du tourisme.
C'est pourtant sûrement ce qui occupe le plus l'économie du tourisme et les imaginaires.
Ouais, carrément. Il y a les imaginaires et puis il y a aussi les ministères. Et c'est-à-dire qu'avant, il y a, je ne sais pas, 50, 70 ans, 80 ans, quand on parlait de tourisme, on pensait vacances pour tous. Aujourd'hui, quand on pense tourisme, on pense arrivée internationale. Ce qui est proprement idiot parce que c'est des Français qui consomment 85% des nuitées en France. Et on fait semblant qu'il n'existe pas. Et on ne s'intéresse pas au tourisme domestique. Alors qu'en fait, c'est le tourisme le plus important. C'est celui qui fait vivre le plus grand nombre. Et pour ces 15% de nuitées de touristes internationaux, ça devient le Graal, l'objet exclusif des attentions du ministère.
C'est vraiment la représentation essentielle du tourisme.
Peut-être expliquer pour les auditeurs ce que c'est que le tourisme domestique.
Ah oui.
Que tu...
Ben, le tourisme domestique, c'est quand vous restez dans votre pays.
D'accord.
Il y a des nomenclatures un peu touristiques. Quand vous partez en vacances, en général, on considère que c'est à partir de 4 nuits passées en dehors du domicile, sinon c'est qu'un week-end. Ou quand vous partez, pour que ça soit considéré comme un trajet, un vrai trajet un peu touristique, il faut que ça soit à 80 km.
Minimum.
Minimum, c'est un seuil un peu arbitraire. Et en fait, il y a des gens qui vont en vacances près de chez eux. Moi, l'année dernière, pour les vacances de Noël, je suis partie en vacances à Fontainebleau. Je suis allée plusieurs jours à l'hôtel à Fontainebleau pour changer les idées, pour aller voir autre chose. Et ça rentre pas dans le cadre du tourisme, en fait. Alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. C'est la même structure économique, dans le dépaysement, la manière de penser, tout ça. Mais oui, il y a des manières de mettre en casse comme ça les touristes. Et les touristes domestiques, donc c'est vous et moi quand on va en vacances en France.
D'accord.
Alors, il y a une part importante du livre, et ça fait penser au titre « Dévorer le monde », qui parle des méfaits environnementaux du tourisme. Alors, tu parles du trafic aérien. du rôle du low cost, l'artificialisation de la nature, etc. Est-ce que tu peux développer ça ?
Ouais, bien sûr. En fait, dans le livre, quelque chose que je fais aussi, c'est de considérer le tourisme est souvent envisagé dans la littérature académique comme une bénédiction ambiguë. Donc il y a des bons côtés, des mauvais côtés, et c'est vrai que souvent dans les livres militants ou dans les discours militants, on a tendance à avoir plutôt les mauvais côtés. Et je voulais pas du tout les cacher, mais je voulais aussi essayer de comprendre pourquoi aussi ça faisait rêver. Parce que ça fait rêver le tourisme, ça fait rêver les gens qui partent, puis ça fait rêver aussi les gens qui reçoivent, qui se disent c'est de l'argent, c'est des devises, c'est de l'argent des Occidentaux, ils en ont plein, ils vont le dépenser. Et donc dans la perspective de tourisme international qui m'intéressait, elle m'intéressait même si elle est pas, comme on a dit, elle est pas hyper représentative, mais je trouve que c'est la plus évidente, puis c'est celle sur laquelle j'ai travaillé aussi. Donc, je voulais avoir un discours qui montre aussi que c'est aussi plus compliqué que ça. Et notamment sur les désastres touristiques. Justement, je prends le titre du livre de Henri Mora, qui est sorti aux éditions L'Échappée en 2020 ou 2021. Je ne sais plus qui en parle très bien. Il y a des problèmes. Premier problème, c'est les transports. Dans le tourisme international, c'est du transport en avion. C'est une part qui arrête pas de croître. Mm-hmm. C'est-à-dire la plupart des émissions stagnent ou baissent. Les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien augmentent, et puis on voit pas la fin de cette augmentation. Ça semble assez normal. Et puis c'est une manière de voyager qui est spécialement exclusive et injuste socialement. Donc, il y a l'avion qui est un gros problème. Il y a l'usage de l'eau aussi. En général, on considère que si vous restez chez vous, vous allez consommer moins que si vous... Quand vous êtes touriste, il y a des usages de l'eau. Il y a le linge dans les hôtels, il y a les piscines. Il y a plein de choses qui font que vous consommez beaucoup plus d'eau qu'à la maison. Il y a l'usage des terres aussi, le fait d'artificialiser des terres pour mettre des hôtels, des choses comme ça. Mm-hmm. Et donc, tout ça, c'est des problèmes écologiques. Mmh. Après, il y a aussi quelque chose qui fait que le tourisme, il justifie des fois aussi des efforts de préservation et de préservation de la nature, notamment les parcs nationaux. C'est d'abord des endroits où on préserve la nature, et puis très vite derrière, c'est des endroits où on accueille les touristes. Donc la préservation et le tourisme aussi sont liés, puis des fois avec des avantages écologiques et puis des désavantages sociaux qui sont certains quand les populations elles-mêmes...
Tu parles même d'expulsion de populations...
C'est les Maasai. Ouais, c'est les Maasai de...
Les Maasai, c'est ça. Mm-hmm. À propos de la création d'une réserve de chasse donc en Tanzanie, si je ne me trompe pas, pour attirer des touristes fortunés et on a viré...
Oui, tu parles de zoos humains en Malaisie, tu parles de réserves aborigènes, tu peux préciser ?
Alors, moi j'ai travaillé dans un village en Malaisie, et puis qui est un village autochtone, c'est les gens que le peuple là-bas s'appelle les Jakun, et c'est un tout petit parc national sur lequel il n'y a pas eu beaucoup d'études sur le tourisme, notamment parce qu'il y a très peu de touristes, en fait, c'est un endroit qui est vraiment plutôt à l'écart et tout. Donc il n'y a pas beaucoup de tourisme, mais j'ai plutôt du coup lu des choses à propos d'études sur un autre peuple qui s'appelle les Batek, mmh. sur lesquels, qui eux, peuplent un endroit qui a été, qui est devenu un parc national il y a 90 ans environ, suite à des histoires qui sont assez bien racontées par un historien qui s'appelle Mathieu Guérin. Et il raconte cette histoire de construction du parc national. Et au début, un parc national, enfin une réserve, c'est une réserve de chasse pour les colons britanniques et les riches malais. Et donc au début, c'est ce qui justifie la préservation, c'est le fait de préserver du gibier, quoi, pour le donner à l'usage exclusif des riches. Et à cette époque-là, c'est Mathieu Guérin qui raconte ça. Il a montré des textes de l'époque qui racontent que bah, les paysans malais sont expulsés. Mais en revanche, les bateks, donc les autochtones, ont le droit de rester parce que eux, c'est un peu comme des animaux. Donc un truc d'une violence assez extraordinaire. Et aujourd'hui encore, les bateks, ils sont liés au tourisme dans le parc. Ils ont la possibilité de montrer leur savoir-faire, des choses comme ça.
Leur tradition, c'est
leur
ça.
Leur tradition, ouais. D'une manière qui est un petit peu exotisée aussi.
Folklorique, quoi, c'est des spectacles.
Ça fait penser à ce qui se passait au 19e siècle, en fait.
Ouais, alors il y a un peu de ça. Mais les chercheurs ont montré que quand ça ne leur plaît pas, ils se cassent. On leur donne un rendez-vous, ils disent oui, et puis ils n'y vont pas. Et donc, ils ne sont pas dépendants du tourisme. Mais il y a d'autres endroits. Par exemple, il y a un endroit avec, je crois, c'est des semailles dans les Cameron Highlands, qui sont aussi des hautes terres de Malaisie péninsulaire, où les gens me disaient, même les touristes, en fait, me disaient, c'est très choquant, on arrive, il y a un village très pauvre, les gens, ils enlèvent leur t-shirt, ils y mettent un habit traditionnel, et on dirait qu'ils vont bosser. Et de fait, ils vont bosser, en fait. Et donc, il y a des choses assez, assez glauques qui se développent autour du tourisme culturel et la participation des peuples autochtones.
Un peu aussi comme les Indiens d'Amérique, qui
sont dans les réserves.
Qui sont, enfin, puis qui vont jouer aux Indiens, quoi, enfin, qui vont faire des cérémonies rituelles pour les touristes.
Ben, ouais, alors la situation, elle est un peu différente, même dans Malaisie, quoi. Moi, ce que j'ai vu, c'était, il y a quelque chose d'un petit peu différent. Et c'est par exemple, j'ai vu les gens faire des démonstrations de sarbacanes, de choses comme ça, qui sont assez impressionnantes. C'est des sarbacanes qui font 2 mètres de long, les gens ils les tiennent avec une seule main, enfin, et puis ils mettent à tous les coups. En tout cas, le monsieur qui nous montrait. Et ils le font en t-shirt. Et donc, il n'y a pas trop d'exotisation. Et en revanche, le jour des peuples autochtones, qui est un jour qui a lieu, je pense que c'est le 8 août tous les ans, et ben là, ils se mettent des habits traditionnels et tout. Et donc, c'est un peu folklorique, mais c'est un folklore qui a du sens politiquement aussi de réclamer les droits des peuples autochtones. Donc, voilà, ce que j'ai vu, la situation que j'ai vue, elle était plutôt sympa.
Ambiguë.
Et puis même plutôt sympathique, avec quelque chose qui ressemblait plus à un échange et tout. Alors, c'est très, très inéquitable. Hein. C'est des gens qui étaient des... Moi, quand j'ai assisté, c'était des Français qui avaient de l'argent, quoi, des bourgeois. Et puis, des gens qui habitent à la campagne, dans un pays pauvre. Et donc, ils sont doublement, triplement pauvres.
Tu parles du tourisme climatique, du tourisme de la désolation et du dark tourisme. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît?
Ouais. Alors c'est des formes de tourisme qu'on a appelé le tourisme de la désolation. C'est d'aller voir des choses terribles. Par exemple, alors un tourisme de la désolation assez classique, c'est d'aller voir les camps de la mort à Auschwitz, à côté de Cracovie. En Pologne, de visiter des choses, un peu fortes, un peu curieuses, un peu comme ça, mais qui renvoient à des histoires très douloureuses. Et donc, moi, je me pose la question, je n'ai pas de réponse et tout, mais je me dis, bah, qu'est-ce que c'est qu'emmener des gosses à Auschwitz ? Est-ce qu'on est obligé d'aller voir ce qui s'y passe ? Et puis après, je parle de choses, mais ça, c'est un truc un peu classique. Puis je parle aussi d'un tourisme de la désolation qui est plus une sorte de courir derrière l'expérience la plus glauque, d'essayer de trouver, d'aller voir. Par exemple, moi j'ai vu un épisode, ça s'appelle Dark Tourist, je crois. C'est un programme sur Netflix et il y avait une des attractions, c'était au Cambodge, vous pouvez aller tuer des animaux.
Du camp 21.
Non. Oui, j'en parle aussi. Mais je crois que c'était un truc, par exemple, il y avait une attraction pour les touristes où on pouvait tuer des animaux. Donc, pour telle somme, vous avez un chien. Pour telle somme, vous avez une vache.
C'était dans quel pays ? Soit le chien, soit la vache.
Ouais, c'est ça.
C'est dans quel pays ?
Dans quel pays ?
Cambodge.
Je crois que c'était au Cambodge, ouais. Et il y a un côté un peu attraction. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Ben, je vais faire un truc rigolo. Et en fait, dans tous ces trucs-là, que ça soit très classique ou quoi, il y a un peu l'idée de se faire peur, faire un truc un peu moche ou
on est un peu dans l'interdit en fait,
ah
dans
oui,
les
tabous, complètement,
l'interdit, etc. On transgresse, on est dans la transgression.
Alors
là.
Pour le coup, ouais, alors Auschwitz c'est pas exactement la transgression, mais oui, il y a quelque chose de très remuant en fait aussi dans les deux cas. Et puis au Cambodge, il y a le fait d'avoir une arme en fait. Il faut trouver des gens qui vendent ça. Il faut avoir une arme. faut ensuite acheter des, enfin, tuer des animaux, ce qui est ce qu'on n'a pas le droit de faire en France n'importe comment, mais bon, en Cambodge c'est plus facile. Et il y a un petit côté, oui, de, en tout cas, de voir un truc un peu émouvant qui prend un peu aux tripes et tout. Et puis aussi, on pourra parler quand on revient, quoi, parce que du coup, on fait aussi aller voir des trucs, aller voir des choses, remuantes aussi. On le fait aussi pour accumuler des expériences qui sont des expériences fortes, des expériences qui rompent avec la quotidienneté, des expériences. Et donc, il y a un peu tout dans le tourisme de la désolation. Et puis, il y a un peu une volonté de se distinguer en faisant un truc un peu fort. Et notamment aussi, il y a le tourisme. C'est Rémi Knafou qui appelle ça le tourisme de la dernière chance, qui est d'aller voir de l'Antarctique ou d'aller voir des glaciers qui vont disparaître. Donc il y a plein de choses un peu une espèce de course en avant aussi dans le tourisme qui tient, je pense, à la course à l'originalité et qui est assez marrant aussi parce que en même temps il y a une course à l'originalité et à la distinction. Donc on essaie de faire des choses que les autres n'ont pas fait parce que voilà, pour faire quelque chose d'un peu spécial et d'être soi-même quelqu'un de spécial. Et puis il y a aussi à la fois l'envie de faire la même chose que des autres. Donc, et ça qui est un truc un peu mimétisme. Donc, en fait, c'est juste on a envie de faire la même chose que les gens qui sont placés un peu au-dessus de vous dans l'échelle sociale et puis d'en profiter pour se valoriser, quoi.
Et comment sur cette question, comment comprendre en fait ce type de phénomène, justement, ce dark tourism, ce tourisme de la désolation?
Bah, pour moi, c'est pas mal une course à la distinction. Oui. Alors, c'est pas le cas pour Auschwitz et tout, parce que Auschwitz, c'est devenu une expérience un peu classique, un peu scolaire aussi, il y a beaucoup de scolaires. Mais il y a un côté un peu, je trouve, un peu malsain, quoi, d'aller voir ça. Moi, je suis allée visiter Cracovie. J'ai pas du tout eu envie d'aller visiter un camp de concentration. Et je cite dans le livre quelqu'un qui est allé, un juif américain qui est allé faire un tour des camps de concentration en Europe. Et donc, il est à Auschwitz en train de manger une pizza. Et puis, il y a un monsieur qui s'approche de lui et qui lui dit vous savez, cet endroit n'a pas été bâti. Enfin, lui dit, cet endroit a été bâti dans les années 40. Et en fait, c'était l'endroit où on faisait le tri des gens et où on gardait il y avait des entrepôts où on gardait leurs effets pour les valoriser ensuite. Et en fait, cet endroit-là était reconverti en stand à pizza, quoi. En cafétéria. La cafétéria d'Auschwitz, c'est un lieu où sont passées des choses terribles, mais les gens, ils mangent leur pizza. Et ensuite, ils vont voir les mêmes bâtiments qui ont été bâtis à la même époque. Et puis là, ils vont dire, oh, il s'est passé des choses terribles.
Ça fait penser au D-Day.
Donc, il y a un petit truc un peu, je pense, moi, je trouve ça un peu vraiment très bizarre comme expérience d'aller
voir des lieux forts, quoi. Je suis allée à Cracovie pour rendre visite à une amie. Sinon, je n'y serais pas allée si je n'avais pas une amie. Et il y avait, effectivement, on était dans un hôtel à Cracovie où il y avait des dépliants sur les attractions du camp. Et il y avait un dépliant où il y avait, effectivement, tous les trucs à voir dans le coin. Donc, il y avait Auschwitz, il y avait une mine de sel, de je ne sais pas quoi, enfin, un truc qui doit être très spectaculaire. Il n'y avait pas Walt Disney, il n'y avait pas un Disneyland polonais, mais j'exagère un peu, mais ça m'a donné cette impression.
Ah oui, c'est exactement ça. Ouais.
D'intégrer ça dans un circuit touristique, des choses à voir.
Ouais, mais c'est un peu comme quand vous êtes à Paris dans le centre et qu'il y a ces affiches pour les concerts classiques dans les églises pour les touristes. Bah, c'est la même chose, sauf qu'on vous invite à passer la journée, on vous prend dans un bus, on vous emmène à Cracovie et puis retour. Moi, à Cracovie, j'avais visité un autre lieu de mémoire. Qui était un lieu de Schindler, là, l'entrepreneur qui avait sauvé des juifs. Voilà. Et c'était mis en scène, il y avait beaucoup de muséographie, on n'avait pas vraiment l'impression d'être saisi par. Enfin, c'est une histoire terrible. Bon, voilà, c'est compliqué, quoi, je trouve. Les lieux de mémoire touristiques aussi, parce que ce qui se joue aussi dans le tourisme, c'est quand même une espèce d'enchaînement des attractions qu'on va voir. Donc, on va voir des attractions rigolotes, des attractions sympas, puis des attractions, c'est Auschwitz, quoi. Donc, c'est toujours un peu bizarre, quoi, de faire de mémoires aussi traumatisantes des attractions.
Alors, tu écris aussi, puis on va y revenir dans la deuxième partie de l'émission, que le tourisme est une industrie de la domination. Est-ce que tu peux développer ce point ?
Ah, alors, c'est un peu tout le propos du livre, en fait, c'est de partir du principe que le tourisme... Alors, il faut peut-être un petit peu nuancer, mais tourisme, c'est quand même une activité qu'on peut faire quand on a un surplus d'argent. Aujourd'hui, il y a 40% des gens en France qui choisissent pas leur nourriture parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Il y a plein de gens qui ne mangent plus à leur faim, enfin qui ne mangent plus déjà en qualité suffisante et même en quantité suffisante. Quoi. Quand un énorme scandale de 20% ou plus de la population qui a même plus accès à l'essentiel. Quoi. On parle pas de mal logement encore. Enfin, donc il y a une partie de la population qui devient de plus en plus importante aussi, qui subit une très grande pauvreté. D'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui que une ONG là, qui sort un rapport sur la pauvreté, et donc c'est des chiffres qui augmentent. Et puis à côté de ça, le tourisme est une industrie florissante et qui s'adresse à des gens qui ont, pas dire que tout le monde est riche quand on part, mais qui ont des surplus d'argent de côté, comme ça, qui leur permettent de se payer un joli voyage de temps en temps. Et donc, rien que ça, en fait, ça veut dire que il y a des gens qui peuvent se payer un truc des paysans comme ça, et puis d'autres qui peuvent plus se payer le minimum. Et puis en plus, des fois, le voyage des uns change la vie des autres. Et ça, c'est toutes les questions autour des locations longue durée, de les locations courte durée, des locations touristiques, des résidences secondaires, où ça, c'est un énorme champ où il y a des gens qui s'approprient des logements pour...
Tu parles de Airbnb, par exemple.
Ouais, c'est ça. Oui. Airbnb, et puis il y a aussi, d'autres phénomènes de location qui existaient avant Airbnb. Dans les villes touristiques, ça a toujours été assez compliqué de se loger. Et avec Airbnb, il y a une espèce d'extension aussi des nuisances que connaissent les villes touristiques. Donc elles se sont un peu étendues géographiquement.
On va continuer ça dans la deuxième partie de l'émission. Là, on est arrivé au moment où nous allons passer une chanson très, très à propos, qui est « Voyage, voyage » de Désirless.
Voyage, voyage.
Radio Libertaire 89.4 et nous sommes toujours au grand soir du mardi avec Aude Vidal sur son livre Dévorer le monde aux éditions Payot. Donc avant la chanson de Désirless, on parlait de Airbnb, des conséquences sur les gens qui habitent les villes touristiques. Mm-hmm. Voilà, et tu parles dans ton livre de Douarnenez.
Ouais, notamment je parle de Douarnenez parce que il y a un collectif qui s'appelle Droit à la ville Douarnenez qui a fait un travail super intéressant d'essayer de comprendre les dynamiques du tourisme à Douarnenez, enfin les dynamiques surtout autour du logement et puis notamment autour du tourisme et puis ce qui était intéressant c'est qu'ils sont allés voir ils sont allés remonter comme ça dans l'histoire et ils se sont rendus compte que ça faisait longtemps qu'à Douarnenez il y avait des touristes, mais les touristes c'était des gens qui louaient une chambre l'été et puis on serrait un petit peu, de toute façon il y a beaucoup à faire dehors, et on avait un invité payant et puis ça mettait du beurre dans les épinards et ça permettait aussi à des gens classe populaire aussi de d'être logés à Douarnenez une semaine ou deux pendant les vacances. Et donc c'était une espèce de forme d'économie collaborative, comme on dirait aujourd'hui, mais qui permettait plutôt aux gens qui louaient des logements d'avoir un petit surplus d'argent, alors qu'aujourd'hui le modèle Airbnb c'est appartement entier. Et les gens, ils louent pas une chambre chez l'habitant. Ça a été beaucoup mis en avant au tout début. Puis Airbnb, ça voulait dire, à l'origine, ça voulait dire vraiment un matelas gonflable, louer un matelas gonflable. Et maintenant, c'est beaucoup des appartements entiers. Et donc, il y a plein d'appartements qui sont à Douarnenez, et puis ailleurs, à Barcelone, à Paris, à Berlin, qui sont sortis du marché pour les habitations à l'année. Et qui deviennent des locations courte durée. Et alors c'est quelque chose qui a été très très fort dans les années 2010 aussi. Puis il y a eu les plus grandes municipalités, elles ont mis en place des manières de lutter contre l'importance de Airbnb en réduisant le nombre de nuitées qu'on a le droit de louer, enfin en mettant des limites à tout ça qui sont assez coûteuses en fait à mettre en œuvre et puis à surveiller. Et on a vu que Airbnb sont reportés un peu sur des villes plus petites aussi. Notamment dans les endroits touristiques, sur le littoral, dans le sud et tout. Et la conséquence, c'est que y a de moins en moins de logements dans ces villes-là. Donc il y a des tensions très très fortes pour les gens qui ont pas beaucoup de ronds et qui ont besoin de se loger. Et c'est quelque chose qu'il y a toujours eu aussi avec les résidences secondaires, mais qui est devenu un peu l'indécence à la portée de tous, en fait. Ça a un peu massifié ce phénomène-là et il a fait prendre une toute autre proportion. Mais donc, et le tourisme, c'est l'espèce de champ de bataille entre les gens qui ont beaucoup et qui ont ce surplus et qui peuvent mettre 500 balles dans une location à la semaine 500 balles ou plus, hein. Et puis d'autres qui, en revanche, peuvent mettre 500 balles au mois, et puis, bah, du coup, qui sont moins bien servis. Et donc, une espèce de lutte des classes, en fait, qui se joue dans les locations, dans les villes touristiques.
Tu parles beaucoup de l'écotourisme dans ton livre. Est-ce que le tourisme solidaire est une solution ou est-ce que c'est un leurre?
Alors, dans le livre, je parle je parle un peu d'écotourisme et puis d'autres formes de tourisme alternatif. Et puis il y a un peu à boire et à manger, en fait il y a plein de choses différentes, et l'écotourisme c'est un concept qui a été conceptualisé donc à peu près en même temps que le développement durable, donc avec les trois piliers du développement durable, c'est-à-dire la protection de la nature, le développement économique et puis la démocratie, enfin. Et donc c'est un concept un peu, bon, voilà, qui date de cette époque, et aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont labellisées écotourisme parce que il y a pas de paille en plastique, ou parce que c'est des activités nature. Et puis franchement, moi j'ai vu plein de trucs écotouristiques qui n'étaient pas hyper intéressants, puis surtout la question elle est jamais posée de comment sont venus les gens, parce que si vous allez faire de l'écotourisme à Bornéo pendant 10 jours puis ensuite vous rentrez, il y a quand même un impact écologique qui est pas négligeable. Je pense que c'est Guillaume Blanc là qui en parle dans Le colonialisme vert. Mm-hmm. Il raconte des gens qui font de l'écotourisme dans les parcs naturels en Éthiopie et qui sont hyper équipés, tout ça, et qui essaient de pas avoir un impact trop élevé, de mettre les bouteilles à recycler, tout ça, et qui quand même ont fait 10 000 km pour venir de Paris, ouais.
Tu parles aussi du staring.
Ah oui.
Sparing.
Ouais, sparing.
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 Oui, il y a sparing et sharing. Il y a ces deux sharing. Approches, en fait, de la préservation du milieu. Il y a une approche un peu parc national, quoi. Avec les premiers parcs nationaux, c'est aux États-Unis au 19e siècle, et puis c'est une approche d'aujourd'hui, on se rend compte bien qu'elle est très blanche, bourgeoise, masculine, avec le contact direct avec la wilderness, tout ça. Et puis, et donc il y a une espèce de truc un peu romantique autour de la préservation de certains espaces, et puis à côté on fait vraiment de la merde, après à côté il y a le monde industriel qui envahit tout, mais il y a certains espaces qui sont préservés. Et ça, c'est un modèle qui a encore, et de plus en plus, en fait, dans les capitalistes verts, d'alliés, en fait, de gens qui trouvent que c'est vraiment super intéressant, parce qu'il y aura du vivant, du sauvage, dans un endroit. Et puis, ça permet de ne pas remettre en question le capitalisme, et puis de continuer le business comme avant, ailleurs, quoi.
Tu donnes le cas de ce qui se passe en Écosse, justement.
Ouais. Et en Écosse... Ouais, en Écosse, alors, c'est une situation qui est assez poignante en Écosse, parce que c'est un endroit qui a fait l'objet de clearances. On appelle ça les clearances, ça veut dire ces sortes d'enclosures, mais vachement plus violentes, en fait. Les enclosures, c'est en Angleterre, quand on a pris les terres communales, et puis qu'on les a privatisées, et puis les paysans se sont retrouvés sans subsistance, et ont obligé d'aller à la ville. Enfin, les paysans, en tout cas ceux qui dépendaient des terres. En Écosse, c'est des villages entiers qui ont été rasés. D'ailleurs, on en voit un dans le film qui s'appelle Le temps des ouvriers. C'est le préalable à l'existence des ouvriers, c'est l'éradication des paysans. Et donc, en Écosse, on a éradiqué comme ça des villages entiers. Les gens ont été priés d'aller voir ailleurs. Et donc, c'est un espace complètement sauvage, l'Écosse. Moi, j'ai traversé une partie de l'Écosse, des Highlands, en train. Et vraiment, il y a personne et tout. On voit quelques brebis ici et là. Et c'est un paysage donc qui a été vraiment privatisé, vidé, complètement vidé, privatisé par les capitalistes anglais au XVIIIe siècle et les aristocrates écossais, quoi. C'est pas qu'une histoire ethnique, hein, c'est une histoire aussi de classe, hein, d'alliance de classe. Et ensuite. Et donc, ça donne lieu à un paysage qui est... des paysages qui sont très beaux. C'est les paysages de moyenne montagne qui sont vraiment très, très beaux. Et qui, aujourd'hui, ils sont... ils ont été disponibles pour l'élevage, ils ont été là aujourd'hui, ils sont disponibles pour la compensation carbone, ils sont disponibles pour l'écotourisme. Et donc, ça veut dire que il y a des projets de compensation carbone. C'est Édouard Morena qui en parle dans un bouquin qui s'appelle « Fin du monde des petits fours », qui parle des stratégies des ultra-riches par rapport à la crise climatique. Et donc ils font d'une pierre deux coups en préservant un espace comme ça, en libre évolution, machin, et avec compensation carbone, tout ça. Et puis après, ils font venir des gens en hélicoptère et qui profitent du lieu et qui vont dans les lodges écotouristiques là-bas, quoi. Donc oui, clairement, dans le capitalisme vert, l'écotourisme et la préservation comme ça d'espaces très délimités, elle est assez, assez compatible avec le reste de l'économie capitaliste.
Oui, tu parles aussi du train Maya.
Ouais, je parle du train Maya, et c'est une histoire dont j'ai pris connaissance dans la presse, et puis il y a un super film qui s'appelle Maya Police, qui a été produit par un chercheur avec d'autres équipes de chercheurs d'Angers notamment, et puis des chercheurs qui sont au Mexique. Et donc c'était quelque chose qui a été fait sur la métropolisation de la péninsule du Yucatan. Avec l'extension du tourisme de Cancun et tout, vous savez, quand on dit non, mais il faut permettre à l'arrière-pays d'avoir des retombées touristiques aussi, ben, on voit ce que ça donne, l'arrière-pays du Yucatan. Et c'est des exemples assez prenants de territoires qui sont complètement dédiés à l'industrie touristique.
Et ça a suscité la destruction, je crois, d'une énorme d'hectares. Quantité de forêts.
Ah ouais, alors le train lui-même. Alors, le train, c'est écolo, tout ça, mais en fait, pas tant que ça. On le voit avec la LGV, là, sud-ouest, qui va passer juste à côté de la maison de chez mes parents, d'ailleurs. Enfin, j'espère qu'elle va pas passer, justement. Et en fait, ça fait. C'est des emprises au sol qui sont importantes, et puis, c'est pas si écologique que ça. Et donc, c'est des milliers d'hectares qui sont concernés par la construction du train Maya. Et sans compter que derrière. Et ben derrière, les gens ils vont prendre des voitures de location, ils vont construire des hôtels, donc il y aura encore plus d'emprise au sol. Il y a un endroit à Bali où les hôtels, où il y avait des rizières, et puis petit à petit, on a construit des hôtels, et puis des hôtels qui avaient vue sur la rizière. Et au bout d'un moment, il y avait plus de rizière. Et ce qui fait un peu, c'est quelqu'un qui travaillait dans un hôtel, un local qui travaillait dans un hôtel, qui m'a raconté ça, qui m'a dit maintenant, à force de faire des hôtels sur la rizière, il n'y a plus de rizière à voir. Et donc, il y a un développement touristique qui est même capable de manger ce qu'il
est censé promouvoir.
À force de l'exploiter, le truc se tarit.
Tu as quelques lignes un peu sarcastiques, on va dire, sur le WWF. Qui apparemment n'a pas l'air de te plaire, cette organisation là.
Alors je pense que c'est des choses que j'ai trouvées. Alors il y a un auteur qui s'appelle Peter Lavergne et qui parle notamment du rôle de certaines ONG environnementales dans l'approche sparing, dans l'approche de préservation très localisée, y compris de fois très radicales et tout, mais très très localisées. Et c'était cet auteur, il a écrit un livre qui s'appelle L'écologie des riches, qui est pas traduit en français, pas encore, et qui mérite de l'être, parce que c'est un chouette livre sur les stratégies, les stratégies du capitalisme vert.
Et est-ce qu'elle, alors on va peut-être là parler plus précisément du voyage, quoi, du sens du voyage. Est-ce qu'il n'y a pas dans les critiques du surtourisme, qu'on entend beaucoup hein, depuis quelques années, une espèce de mépris de classe? On entend dire, oui, c'est affreux, les endroits, c'est bourré de hordes, de touristes, et c'est vraiment le surtouriste, c'est l'autre. Je sais pas si on a partagé ce sentiment en étant à l'étranger, mais d'avoir... Même dès qu'on voyait des touristes français, par exemple, en vue de... de fuir, de ne pas être considéré comme un touriste. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de ça?
Ben, je pense que dans le tourisme, il y a toujours un truc de distinction aussi, et qui est vraiment, même à l'origine du tourisme, il y a le grand tour aristocratique. Donc d'emblée, ça a été une activité d'oisif, riche, rentier. Et ensuite, ça a toujours été, enfin, l'idée que d'autres puissent jouir de temps libre et les capacités d'aller voir ailleurs, ça a toujours été perçu de manière hyper négative et toujours avec cette peur de devoir partager des espaces avec des gens d'une classe sociale inférieure à la vôtre et tout. Donc il y a toujours ça. Et puis, comme je disais, l'envie de faire des choses. Ah ben nous, on va pas faire comme les touristes. Enfin, vous savez, ce truc-là d'essayer d'échapper un peu à la piste touristique. Et donc, on essaie de faire des choses originales, de faire des choses un peu aventurières et tout, qui sont un peu illusoires, en fait, dans une société où, enfin, toutes les sociétés, aujourd'hui, elles sont industrialisées. Il y a les mêmes services partout, donc des hôtels, des bus, des machins. Enfin, il y a de peu près tout, quoi, y compris dans des pays très exotiques. Et donc, on essaie un peu de se singulariser, puis en même temps, de faire des trucs... de faire des trucs un peu spéciaux qui montrent que vous êtes
une appartenance de classe, une distinction, comme tu disais tout à l'heure.
Ouais, vous distinguez. Alors quand on ne distingue pas par l'argent et par le fait de descendre dans des hôtels 5 étoiles, on peut se distinguer par
la singularité du lieu, par exemple.
Oui, l'aventure, l'originalité, des choses comme ça. Donc aller tuer des vaches avec des coups de feu en Cambodge, quoi. Enfin, des choses comme ça. Et donc, ouais, c'est un truc qui est vraiment très, très important dans le tourisme. Et oui, la notion de surtourisme, elle est apparue. Moi, je l'ai vue apparaître à la fin des années 2010, et j'en parle pas trop dans le livre. Mais aujourd'hui, oui, il y a des gens qui me disent « Ah oui, c'est un livre sur le surtourisme ». Bah non, c'est un livre sur le tourisme tout court. Et le surtourisme, je trouve que c'est des notions qui sont... c'est une notion qui est à manier avec un petit peu d'attention, parce que on peut parler sur tourisme, mettons dans une ville comme Paris, mettons quand les locations courte durée, elles commencent à tendre le marché, quand il y a un ras-le-bol aussi, quand les gens ils ont l'impression d'être gênés au quotidien par les touristes, et que il y a une colonisation par le tourisme des lieux de vie. Bon, dans ce cas-là, on peut dire, par exemple, quand on n'arrive plus à aller au Louvre, parce qu'il y a toujours une queue énorme, là, on peut dire qu'il y a du surtourisme, parce qu'on n'arrive plus à être habitant de la ville sans être impacté par le tourisme. Mais en revanche, quand vous allez à la Grande Motte, vous dérangez personne. C'est des villes qui ont été conçues avec des problèmes écologiques indéniables. Mais c'est des villes qui ont été conçues pour accueillir des masses de touristes. Et un tourisme de masse et qui pose aucun problème, aucun des problèmes sociaux que ça pose à Barcelone, ou Baléares ou ailleurs. Mais donc oui, il y a eu une augmentation du tourisme, et donc dans certains endroits, bah, ça coince vraiment avec la vie des gens. Et puis dans d'autres, les masses de touristes posent aucun problème.
Comment expliquer cet engouement pour le tourisme, pour le voyage?
Alors c'est difficile à dire, parce que on a tous des choses un peu différentes par rapport au voyage. Et par exemple, il y a le goût pour le voyage, il est un peu marqué déjà. Il est un peu marqué par la classe sociale. Il y a plein de gens qui ont peur de partir en voyage, qui ont peur de perdre leurs repères, de pas savoir prendre le train. Et donc déjà c'est un goût qui est pas si partagé que ça. Et puis ensuite, la raison pour laquelle il y a beaucoup, enfin, qu'on peut se sentir un peu opprimé par le fait que, ou pressé plutôt, je veux dire, par le fait qu'il y a beaucoup de touristes, il y a plus de touristes à Paris ou ailleurs, ou dans les lieux où on habite. Cette pression aussi, elle s'explique par le fait que la classe des gens qui ont accès au tourisme, elle grandit. Et ça ne veut pas dire que les richesses sont mieux réparties. Au contraire, même, c'est peut-être un marqueur d'inégalité croissante. Et puis, ça veut aussi dire que les voyages, ils diminuent dans le temps. Enfin, les voyages sont plus courts. Donc, les gens font des voyages, ils vont passer, je sais pas, 3 jours à Budapest et 3 jours à Berlin, au lieu d'aller passer une semaine dans le Morvan, quoi. Et donc, il y a des voyages qui sont un peu... un peu perturbateur aussi. Les gens vont et viennent, ils ont leur valise à roulettes. Et puis, il y a aussi ces fameux services qui ont aussi augmenté les, comment ça s'appelle, les, le tourisme lui-même. Il y a l'aviation low cost aussi qui a suscité des nouveaux voyages. Il y a Airbnb aussi qui a, d'une certaine manière, suscité aussi. Les deux vont ensemble, en fait. Mm-hmm. Hein. Mais ils ne sont pas arrivés en même temps, l'un avant l'autre. Mais surtout, le principal moteur du tourisme, c'est vraiment les inégalités sociales, en fait. C'est le fait qu'il y ait des gens qui ont plein d'argent à dépenser, et de l'argent en trop, quoi.
Alors, au sujet des enjeux, hein, donc c'est autour de la conclusion, en fait, hein, de ton livre, tu écris « L'avenir de l'activité touristique, les enjeux aujourd'hui sont autour de la régulation sociale et politique de l'activité touristique ». Alors, pourtant, dans ton travail, tout ton travail montre que le tourisme, ici comme ailleurs, est un pur produit du capitalisme mondial, de la financiarisation du monde et des rapports de domination. Est-ce que tu penses vraiment qu'une régulation soit la réponse la plus adaptée ?
Eh bien, je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas de régulation, c'est qu'on est dans une société capitaliste où toutes les activités économiques ont vraiment la bride sur le cou. Et que réguler, enfin en tout cas, moi je voulais pas dire réguler dans le sens mettre des barrières quoi, mais arriver à, en tout cas, à contrôler un peu plus de manière démocratique le tourisme. Et à mon avis, ça peut pas se faire dans une société.
On est bien d'accord.
Dans une société capitaliste où en fait, les vies des gens comptent vraiment très peu par rapport à la possibilité pour d'autres qui ont du pouvoir de gagner des ronds quoi avec.
C'est ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans une société capitaliste...
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est le cas sur le tourisme, en fait. C'est le cas sur tant d'autres... Enfin, l'industrie de l'automobile et tout. Tout est un peu...
Tout est au service du capital.
Exactement, voilà. Exactement.
Et là, du coup, la question que nous nous posions, c'est, faut-il... comment faire ? Ne faut-il pas aller à la source, finalement, des problèmes ? C'est-à-dire le touriste lui-même, celui ou celle qui part en vacances, parce que le voyage est un exutoire, une échappée belle qui rend supportable les frustrations et l'usure quotidienne, sa propre aliénation au salariat, au monde du travail, à une société organisée autour de la consommation, du spectacle et du rêve. Donc, est-ce que c'est pas là qu'il y a quelque chose à faire, une prise de conscience, ou plutôt un deuil pour les gens, ne pas participer, ne pas contribuer
Oui, alors oui, j'ai pas parlé de cette dimension du tourisme qui est l'impasse pour les gens qui partent aussi. D'essayer de compenser un peu leur vie dédiée au travail et tout. Alors, on va pas non plus pleurnicher plus sur les gens qui partent que sur ceux qui leur servent dans les restos et dans les hôtels, quoi, et qui font leur ménage dans les hôtels. Mais il y a aussi cette dimension-là. Et je sais plus ce que je voulais dire.
À propos du voyage lui-même, tu as une phrase, à un moment je l'ai notée, mais je ne sais plus où je l'ai notée, du désir d'ailleurs. Est-ce qu'il ne peut pas... Déjà, qu'est-ce que c'est que ce désir d'ailleurs ? Enfin, et est-ce qu'il ne peut pas se combler sans être obligé d'aller très loin, quoi.
Enfin, ouais, ouais. Alors, moi, je suis pas hyper convaincue par des approches du type « Non, mais je vais m'empêcher de faire quelque chose qui me donne tellement envie. Mmh. » Et l'idée de renvoyer chacun à sa vertu et à sa capacité à refuser de consommer, elle est un peu illusoire. Et puis, c'est un peu, comment dire, religieuse, quoi.
Moraliste, enfin.
Oui, c'est ça, oui. C'est ça.
Moi, je dirais éthique, hein, on n'est pas d'accord là-dessus.
Oui, hein. Oui, c'est ça. En tout cas, bon, on peut dire, religieuse, on va laisser tomber. Mais ouais, y a un truc un peu moral et tout, de, moi, je vais me faire de la contrition et tout. Puis je pense que vraiment, pour aller au fond des choses, on peut travailler sur les représentations et tout. Mais grosso modo, le tourisme, il va avec une société inégalitaire, une société dans laquelle les gens ils sont pas contents d'habiter là où ils habitent parce qu'ils habitent dans des villes urbaines, industrielles qui puent la bagnole et dans lesquelles ils sont pas bien quoi. Mmh. Et donc ils compensent aussi en partant. Moi je disais J'habite entre une autoroute et une emprise chemin de fer avec les incinérateurs, la fumée des incinérateurs au loin. Oui, c'est là où j'habite.
Ah oui,
j'habite en banlieue. J'habite en petite couronne, en fait. Et quand on habite dans une ville industrielle où on entend les klaxons toute la journée et tout, qu'on a envie de partir, franchement, c'est assez compréhensible. Mais je pense
c'est
que
un cercle vicieux, en fait.
Ben, d'une certaine manière, ouais. Je pense que pour arriver à plus avoir envie de partir de chez soi, il faut arriver à complètement changer la vie chez soi, à réinterroger le temps de travail, à réinterroger les lieux de vie, à être mieux. En fait, je pense que ça montre aussi qu'on n'est pas bien là où on est, quoi, quand on a envie de partir. Et dans le bouquin, je donne l'exemple de deux copains qui se connaissent pas entre eux, mais qui tous les deux se considèrent, qui vont dire comme des paysans et qui sont enracinés et qui sont contents d'y être. Alors, il y a quelqu'un qui est un voisin qui a jamais voyagé, enfin un voisin de mon village là en Gironde qui a jamais voyagé. Et puis il y en a un autre, c'est un paysan qui a fait le tour du monde, qui allait faire des vacances super, là, dont je parle un petit peu dans le livre. Et puis à un moment il s'est rendu compte que c'était con. Et puis il est revenu chez lui. Donc évidemment on peut travailler sur ses représentations, se demander ce qu'on fait. Mais au final, je pense que le remède contre le tourisme, c'est aussi de changer la vie, et puis de changer la ville, de changer le travail, et puis et de vraiment arriver à être bien chez soi, quoi. Et d'ailleurs, c'est le propos d'un livre aussi dont je parle, qui s'appelle La vraie vie est ici. C'est un sociologue du tourisme qui s'appelle Rodolphe Christin. C'est lui qui parle du tourisme comme une industrie de la compensation. Et un de ses derniers livres, il vise à remettre l'accent sur qu'est-ce qui fait qu'on peut être bien chez soi et en quoi c'est important. Et être bien chez soi, ça veut dire aussi tisser des liens chez soi, ça veut dire être politiquement actif chez soi, ça veut dire passer ses week-ends à faire des choses qui ont du sens près de chez soi, plutôt qu'à oublier qu'on y habite, quoi, en allant ailleurs.
Comme quoi, on voit effectivement que la question du tourisme est absolument capitale. Est-ce qu'on peut faire une distinction, ou est-ce que ça a du sens de faire une distinction entre tourisme et voyage?
Moi, je trouve que c'est compliqué, parce qu'il y a peut-être des gens qui voyagent et tout, mais la plupart des gens, quand on voyage, on utilise des infrastructures d'hôtels, de trains, de bus qui existent vraiment dans tous les pays du monde, en fait. Et je trouve que ça ne change pas. Il n'y a pas vraiment de. Voilà, je trouve que.
Et le bateau.
Oui, et le bateau. Voilà, je trouve que c'est difficile aujourd'hui de se dire qui c'est qui voyage, qui fait du tourisme. Et c'est une manière aussi de.
C'est la distinction.
De la distinction.
On en revient.
Qui est très marqué aussi par le capital, et notamment le capital social, culturel. Et moi, je préfère dire que je fais du tourisme quand je fais du tourisme.
Oui, voilà, d'accepter ce terme et de ne pas se penser supérieur. Parce que c'est ça.
C'est vachement ça. Ouais.
Et est-ce que dans ta vie, est-ce que tu voyages beaucoup? Est-ce que tu as beaucoup voyagé? Et comment tu articules ça
Moi, j'ai beaucoup voyagé, en effet. Mais j'ai beaucoup voyagé et je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de le faire. Mais aujourd'hui, je commence à me dire, en fait, il y a beaucoup d'amis à aller voir. Et que j'ai plus envie de passer mon temps à aller voir des gens que je connais plutôt qu'aller voir des choses que je connais pas. Et de fait, la moitié des gens qui voyagent en France vont voir des amis. En fait, c'est la partie du tourisme immergé, quoi. C'est finalement. C'est assez important ce qui sont de lien.
Ok. On voit en tout. Je répète que le tourisme, le voyage, encore une fois, est véritablement un reflet, comme tout, du monde terrible dans lequel nous vivons. Aude, on te remercie. Je rappelle le titre de ton bouquin, Dévorer le monde.
Voyage, capitalisme et domination.
Absolument. Chez Payot. Merci et à la prochaine.
Merci Frédéric.
sur la mer. Aujourd'hui, dimanche, sur la Manche.
Radio Libertaire 89.4.
Il y a longtemps de cela, au fond du ciel, le bon Saint-Pierre, comme un collégien se troubla pour une étoile au cœur de pierre. Sitôt conquise, elle s'envole en embrasant de son regard le cœur, la barbe et l'auréole du bon Saint-Pierre au désespoir qui criait et pleurait dans les rues du paradis, qui criait et pleurait tout en se moquant de lui. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à moi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle m'aimera. Saint-Pierre alors parti chercher à cheval sur un beau nuage, vainement dans la voie lactée, sa jeune étoile au cœur volage. Au paradis lorsqu'il revint, devant la porte il est resté, n'osant montrer tout son chagrin à ses copains auréolés qui criaient et pleuraient dans les rues du paradis, qui criaient et pleuraient tout en se moquant de lui. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à toi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle t'aimera. Mais le bon Dieu lui vint en aide, car les barbus sont syndiqués. Il changea l'étoile en planète et fit de Saint-Pierre un portier. Et de ses anges déplumés, par les amours du bon Saint-Pierre, afin de tout récupérer, il fit les démons de l'enfer, ceux qui crient, ceux qui pleurent à l'heure où naissent les nuits, ceux qui crient, ceux qui pleurent dans un coin de votre esprit. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle pense à moi. Effeuillons l'aile d'un ange pour voir si elle m'aimera.
Thank you.